On se retrouve peut-être, j'espère qu'on va réussir à faire une émission la semaine prochaine pour vous parler de cinéma. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Thomas, on vous fait des gros bisous. Et puis, non, moi c'est Tom.
Bah oui, pardon, mais il me manque, ils nous manquent tous, non?
Oui, allez, bisous sur vous.
Assoile dans la bagnole.
Alors bonjour à tous les auditeurs de Radio Béton, il est 16h, vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'entraide et solidarité. Donc on est avec vous pendant une heure, donc jusqu'à 17h, pardon. Et nous sommes trois animateurs, Nathalie Dréano qui est à côté de moi, qui est responsable du centre de formation de l'entraide.
Bonjour.
Il y a Thierry Guérard qui est à la technique et puis moi-même, Jackie Rougeon, qui suis bénévole à l'entraide. Donc, Entraide et Solidarité, c'est quoi? Une association, anciennement Entraide Ouvrière, qui vient en aide aux personnes qui sont les plus démunies en Indre-et-Loire depuis 1947. Voilà, donc ça je le dis à chaque fois, mais ça marche à chaque fois, c'est toujours vrai. Les activités, c'est héberger les personnes, accueillir, former, insérer par le travail et bien sûr viser l'autonomie des personnes qui sont accueillies à l'association. Si vous voulez savoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet entraide-et-solidarité.fr. L'objectif de notre émission, donc on a un espace de parole qui nous a été accordé par Radio Béton, merci à eux, du coup on en profite pour contribuer à la lutte contre les exclusions, à un rendez-vous chaque premier lundi du mois pour parler, pour faire parler, pour faire savoir et voilà, on espère être utile de cette façon. Aujourd'hui, le sujet c'est l'hébergement d'urgence. Alors on va tâcher de répondre à la question qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça fonctionne ? À qui c'est destiné ? Comment on accède à un hébergement d'urgence si on en a besoin ? Un mot sur le 115, mais même plus qu'un mot, un dossier sur le 115. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et notamment, on va parler de l'Indre-et-Loire, puisque c'est la région qui nous intéresse. Voilà. Nos invités, donc autour de la table, on fait un tour de table. Donc à côté de moi, il y a Jean-Philippe.
Bonjour.
Bonjour Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe se présentera bien tout à l'heure. Et puis il y a Alain aussi qui est à côté.
Bonjour.
Bonjour Alain. On a avec nous Floriane Sarah-Loucher qui est responsable du pôle social de l'entraide.
Bonjour.
Et puis il y a Lolita Moutot qui est avec nous.
Bonjour.
Lolita est éducatrice spécialisée et elle travaille au centre d'hébergement du Sherpa, où notamment il y a des accueils d'urgence. À côté, il y a aussi Siaka.
Bonjour.
Voilà. Donc pour démarrer et un peu en introduction, à savoir, on pourrait donner quelle est la définition de l'hébergement d'urgence. Alors c'est un devoir d'assistance à personne en danger. C'est inscrit dans la loi.
Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans la loi concernant l'hébergement d'urgence. C'est vrai que là, pour vous faire un petit tableau de la situation sur l'Indre-et-Loire, déjà commencer par vous faire un distinguo entre ce qui est de l'hébergement d'urgence et ce qui est de l'hébergement d'insertion, parce que les voies d'accès sont extrêmement différentes. L'hébergement d'urgence, par définition, est accessible via le 115, qui est le numéro d'appel gratuit départemental. Toutes les personnes qui font appel au 115 sur le département arrivent sur la même plateforme téléphonique qui centralise donc l'offre et la demande d'hébergement d'urgence sur le territoire. Donc sur l'Indre-et-Loire, on va avoir 494 places d'hébergement d'urgence, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui est très loin d'être à la hauteur des besoins qui sont exprimés, ne serait-ce que par les appels 115, donc sans même considérer toutes les personnes qui ne font pas appel au 115. Donc sur l'hébergement d'urgence, il a été conçu comme un dispositif transitoire. L'idée, c'était de pouvoir offrir une porte d'entrée pour les personnes qui ont des problématiques autour de l'hébergement pour faire une évaluation sociale et mettre en place les modalités d'accès à une solution pérenne, à une solution durable.
Et là, on s'adresse à quel type de personnes, Floriane ?
Tout public. L'accès à l'hébergement d'urgence est pour tous, de façon normalement immédiate, inconditionnelle et continue.
Toutes les personnes qui ne savent pas où elles vont dormir ce soir.
Toutes les personnes qui ne savent pas, qui ont une problématique à l'hébergement, tout à fait.
Et une première question, enfin toute bête peut-être, mais en fait, la différence entre un hébergement et un logement ?
Alors, lorsqu'on est sur un logement, on est titulaire d'un bail. Ça, en termes de responsabilité, ça engage beaucoup de différences. Les personnes qui sont en hébergement d'urgence, on va avoir des hébergements d'urgence avec ou sans participation financière, par exemple. Dans un hébergement d'urgence, il y a un certain nombre de prestations qui sont comprises. C'est le gîte, c'est le couvert, c'est la possibilité d'avoir accès à un certain dispositif d'hygiène, c'est d'avoir accès à un travailleur social. Il y a un certain nombre de choses qui vont de pair avec le dispositif d'hébergement d'urgence.
Et par définition, c'est temporaire, du coup. Enfin,
c'est ça. Ouais. En fait, il a été pensé comme tout de suite, maintenant, pour une durée très courte. C'est très loin de la réalité d'aujourd'hui.
Tout à l'heure, tu exprimais différents types d'hébergement d'urgence. Tu peux préciser ?
On va avoir différents types d'hébergement d'urgence parce qu'en fait, la loi prévoit donc qu'on puisse être sur un accueil immédiat, continu et inconditionnel. Mais au vu de la demande d'hébergement, on est aujourd'hui tout à fait incapable de satisfaire ces trois critères-là d'accès. C'est-à-dire que après, les associations vont plutôt privilégier tel ou tel type d'accès. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits qui pourraient s'apparenter à des accueils de nuit. C'est-à-dire que vous faites le 115, vous êtes orienté pour une nuit, le lendemain matin, vous sortez. Surtout, il y a quelques hébergements qui proposent ce type de solution. Mais l'hébergement d'urgence, il va de cet accueil de nuit jusqu'à des solutions continues et pérennes de type un appartement en cœur de ville où vous êtes, vous et votre famille. C'est plutôt des solutions familiales avec quelquefois même une allocation pour pouvoir subvenir à vos besoins les plus primaires, pour pouvoir se nourrir, etc. Donc c'est vraiment des extrêmes sur un continuum de très très hétérogène de solutions d'hébergement d'urgence.
Les 493 places dont tu parlais tout à l'heure, elles embarquent
elles englobent tout ça. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le 115, quand il ouvre à 15h, il n'a pas 494 places à disposition. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur un hébergement d'urgence qui propose un accueil continu, ça veut dire que dès lors que vous rentrez sur cet hébergement, vous avez l'assurance d'y rester jusqu'à ce que vous ayez une autre solution possible. Donc, cette durée-là peut être extrêmement variable en fonction des raisons qui vous amènent à être dans cette situation d'urgence. Voilà.
C'est-à-dire qu'on peut aller de une nuit à un mois, deux mois,
plusieurs années, cinq ans, par exemple. Non, c'est très, très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui vous amène sur l'hébergement d'urgence, on a un public très différent sur l'urgence. On a des personnes qui ont eu des parcours de vie chaotiques, qui ont eu de multiples ruptures dans leur parcours. Et puis, on a des personnes qui ont besoin ou non d'un accompagnement plutôt renforcé, plutôt axé sur des problématiques budgétaires, des problématiques de tenue d'un logement, d'appropriation d'un logement. Il y a autant de situations que de personnes qui peuvent être rencontrées. Et au final, on a aussi des personnes qui arrivent sur l'urgence dans le cadre de la migration et qui vont, entre guillemets, n'avoir comme problématique que cette question de situation administrative. Auquel cas, tant que cette situation administrative n'est pas réglée, elles ne peuvent pas prétendre à accéder à un autre type d'hébergement. Ce qui participe d'une certaine façon à l'embolisation de l'hébergement, puisque du coup, alors que ces dispositifs ont été créés pour être sur une durée très courte, des situations n'ont pas d'autre choix que d'y rester sur une longue durée, n'ayant pas de solution pour pouvoir accéder à un logement ou autre.
Et l'hiver, ça se passe comment ? Là, on parle d'une situation courante l'été ou enfin à l'automne. Quand il y a le plan hivernal, est-ce que tu peux nous redire quelles sont les différences, le plan hivernal ou une autre saison, la trêve hivernale, tous ces termes-là?
La trêve hivernale, ça correspond au fait qu'on ne puisse pas pratiquer d'expulsion durant les mois d'hiver des personnes qui ont des problématiques d'impayé de loyer, etc., pour faire simple. Le plan hiver, c'est un dispositif particulier d'augmentation des capacités d'hébergement du fait de la saison. Alors en soi, c'est déjà un petit peu compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent plus de problématiques l'été que l'hiver, parce que être dehors l'été, ça confronte aussi à d'autres problématiques, type déshydratation, etc. Mmh. C'est pas beaucoup plus simple d'être dehors l'été que l'hiver.
On en a parlé, c'est vrai, le mois dernier. Hein.
C'est un petit peu... Après, il existe ce plan-là, on est content quand il se met en place parce que ça augmente nos capacités d'accueil. Maintenant, le 30 juin cette année, se finit le plan hiver. C'est pour vous dire que la saisonnalité, elle est quand même très fluctuante.
Voilà. Et puis, peut-être que ça n'embarque pas cette notion d'accompagnement dont tu parlais tout à l'heure aussi.
Alors les dispositifs qui sont mis en place dans le cadre du plan hiver étaient jusqu'à cette année plutôt l'ordre de l'accueil de nuit, c'est-à-dire il y a un accueil de nuit qui ouvre tous les hivers, qui est concrètement un grand dortoir.
Voilà. C'était le cas du gymnase à Saint-Avertin.
Alors c'est le cas des gymnases, c'est le cas d'un accueil de nuit pour hommes seuls qui ouvre également régulièrement ses portes. Cet hiver, on avait eu aussi un autre accueil de nuit pour femmes et familles, mais avec un travailleur social. Donc déjà avec une possibilité d'évaluation sociale un peu plus fine et de pouvoir peut-être aussi commencer à mettre en branle certaines solutions, voilà, pouvoir commencer à travailler un petit peu plus l'insertion que sur juste un accueil de nuit. Voilà. Maintenant, c'est pareil. Les solutions sont assez diverses, même si le trait commun, c'est quand même leur caractère, pour le coup, très transitoire. Là, aujourd'hui, les restes du plan hiver, au 4 avril, on a fermé ces accueils de nuit. Et il restait 16 chambres d'hôtel qui ferment donc ce soir, qui ont fermé ce matin.
D'accord. Donc, c'est des personnes qui sont sans solution ?
C'est des personnes qui vont être sans solution, tout à fait, à partir de ce soir.
Qui sont les différents acteurs dans l'hébergement d'urgence, au niveau financier, au niveau d'autres associations ?
Alors, au niveau financier, l'hébergement, c'est vraiment une compétence de l'État. C'est-à-dire que c'est la délégation départementale de la cohésion sociale qui va financer les différents opérateurs de l'hébergement. Il va y avoir le 115, qui est quand même un acteur central dans le sens où il y a vraiment une action de coordination, qui a donc des financements État. Et qui a surtout une délégation de mission de service public. C'est-à-dire que le 115 fait avec les moyens qui sont mis à sa disposition par l'État. Le 115 n'a pas la possibilité de créer des places en fonction des besoins des personnes qui les appellent. Là, ça crée forcément beaucoup de frustration de la part des écoutants, mais vraiment, le 115 ouvre avec des places ouvertes et ne peut pas, si plus de personnes appellent, en créer au gré des besoins. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ensuite, le 115 n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de centre d'hébergement d'urgence. Donc, les centres d'hébergement d'urgence sont portés par les associations, diverses associations sur Tours, avec des modalités de prise en charge, d'accueil, d'accompagnement, etc., qui sont très diverses. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a pas mal de dispositifs où les personnes sont remises à la rue le lendemain matin, avec un retour le soir. Et la journée, les personnes sont dehors. On a des hébergements à la nuit, on a des hébergements pour 3 nuits, 4 nuits, 1 semaine, 5 semaines, et continue. Après, on est au mois renouvelable, on ne gère pas, par exemple. Et ensuite, on est sur de l'hébergement continu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens s'inscrivent dans l'accompagnement social, ils respectent le règlement, évidemment, du lieu où ils se trouvent, ils seront hébergés jusqu'à ce qu'il y ait une solution positive, enfin, qui correspond à leur projet, qui soit trouvée.
Voilà. On va continuer sur le 115 dans un petit moment, mais déjà avec nous, on a la chance d'avoir le plaisir d'avoir avec nous Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Vous êtes actuellement hébergé au Sherpa, qui est un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Oui, tout à fait. Oui.
Depuis combien de temps ?
Ça va faire 2 semaines.
2 semaines ?
Oui.
Vous êtes arrivé comment ? Par le 115 ou par une autre voie ?
Par le biais du 115, mais j'étais hospitalisé juste auparavant. Et c'est par le biais d'une assistante sociale de Bretonneau que j'ai pu accéder à cette urgence, à ce secours d'urgence, étant dans une situation de santé médiocre, et puis, déraciné à la fois familièrement. Enfin, mes parents sont partis l'année dernière, les deux. J'ai perdu mon logement par la suite, et tout ça a fait que je me suis retrouvé dans une situation vraiment d'urgence, quoi.
D'urgence.
Et j'ai eu la chance d'avoir été accepté pour une semaine, pouvoir dormir au sec, après quand même 2 nuits auparavant, avant mon hospitalisation, d'avoir dormi dehors, et bon, c'était très, très difficile psychologiquement également. Donc j'étais à bout quand je suis arrivé vraiment au Sherpa. Et l'accueil qui m'a été offert était formidable, vraiment. Vraiment, c'était... Les termes peuvent paraître un peu excessifs, mais miraculeux. Et je vous jure que c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pu me nourrir, d'abord de souffrir, c'est pas négligeable, ensuite de nourriture et dormir enfin.
Dormir. Il n'y a pas eu de transfert direct de l'hôpital, vous êtes resté 2 jours à la rue et puis ensuite vous avez intégré le Sherpa.
Non, la rue était avant mon hospitalisation.
Avant.
C'est grâce à l'assistante sociale de Bretonneau que j'ai pu avoir un transfert direct via le 115 de Bretonneau au Sherpa, en trade ouvrière.
Vous dites un accueil miraculeux.
Ah ben je pensais retourner à la rue.
Oui.
Oui, oui, vraiment. Et avec tout ce que ça comporte comme difficulté à la fois physique, j'ai une hanche brisée, j'ai le moral à zéro, Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et puis, sans un sou, quoi.
Oui.
Vraiment. Et tout ça, ça commence à se concrétiser, je reprends des forces, et puis il y a un projet qui se met en route, ma foi d'une façon efficace et plutôt rapide.
C'est quoi ce projet?
C'est de pouvoir retrouver un appartement assez rapidement, et puis mais rester dans le milieu social si possible, parce que retrouver un travail à l'heure actuelle dans mon état de santé, je crois que c'est un peu trop prématuré.
Oui. Quel était votre travail au préalable?
Je suis de la génération intérim, comme on dit. J'ai un bac plus 2 en communication. BTS qui m'a assez peu servi. Parce que j'ai fait tous les boulots possibles et inimaginables. Le dernier étant la menuiserie. Voilà.
D'accord. Aujourd'hui, il y a une perspective de rester au Sherpa encore quelques temps?
Il y a un espoir, surtout. La perspective ne m'appartient pas. Mais j'ai cet espoir-là, oui.
On va s'interrompre pour une pause musicale et on reprendra ensuite, Philippe.
Entendu.
Si vous voulez. Merci.
Merci à vous.
Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la teinte pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer, je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées, les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi, à se permettre, à se faire baiser sur un sphère enfanté, des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite, mais ces connards ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir, des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation, des grippes porcines sur des cochons, oh non l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton, oh non l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants, faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé, faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros, faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les
les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre. Va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison. On a loupé nos transactions. C'est laisser prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digitaire. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faut des forfaits. Faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines. Faut pour s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées.
Donc nous sommes de retour sur Radio Béton, donc vous écoutez l'émission Entraide et Solidarité. Donc on remercie Jean-Philippe qui vient de nous apporter son témoignage. Vous restez avec nous bien sûr et vous pouvez prendre la parole.
Avec plaisir.
Merci Jean-Philippe. Floriane, on parlait tout à l'heure du 115, on pourrait creuser certainement sur, préciser peut-être un peu plus dans le détail comment ça fonctionne.
Oui.
C'est un numéro de téléphone national, c'est que j'ai compris. On arrive sur une plateforme à Paris, là, quand on appelle la 115 ?
Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, en effet, c'est un numéro plus qui est national, mais qui a une vocation départementale. C'est-à-dire que chaque département a un 115 qui est dans le département et qui gère l'ensemble des appels du département. C'est-à-dire quand vous faites le 115 dans un lieu donné, votre téléphone est directement rapatrié vers le 115 du département dans lequel vous vous situez. Voilà. Donc on est sur... Il y a beaucoup de personnes qui imaginent une grande plateforme comme sur nos téléphones portables et compagnie.
Oui.
Non, c'est pas tout à fait ça. En Indre-et-Loire, c'est deux écoutants.
Deux personnes.
C'est deux personnes de 15h à 22h. Et ensuite, il y a un relais qui est pris aussi par une tierce personne pour assurer jusqu'à 7h du matin. Mais ça reste assez petit. Cet hiver, ça a été très compliqué de nous joindre. Ça a été très compliqué pour les écoutants de faire face au nombre d'appels qu'on avait à décrocher, sachant que au niveau national, tous les départements ont changé de logiciel de façon à ce que l'État ait une visibilité au national sur la problématique de l'hébergement pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce phénomène et j'espère pour pouvoir mettre en corrélation aussi l'offre avec la demande qui émanait du 115. Donc ce changement-là a beaucoup impacté cet hiver et on a des personnes qui ont tenté de nous joindre des dizaines et des dizaines de fois avant de réussir à nous avoir, ce qui a vraiment été très très problématique pour les personnes à la rue.
Vous recevez combien d'appels à peu près ?
On a pu en recevoir cet hiver jusqu'à plus de 200 appels largement par soirée. Donc c'était très compliqué. Très compliqué, d'autant que le logiciel a un petit peu impacté la durée de réception et du traitement d'un appel. Donc voilà, chaque appel a été un peu plus long à traiter. En plus du fait qu'on a depuis des années une augmentation constante du nombre de personnes qui font appel au 115, du coup, forcément, ça rend l'accès aussi au dispositif de plus en plus difficile pour les personnes. Donc on y travaille, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut ajuster au mieux pour qu'on puisse pleinement remplir nos missions sur le 115.
Quand on pense aux chiffres que vous annonciez tout à l'heure, que tu disais, Floriane, les 493 places, les personnes qui restent sur une semaine, un mois, etc., on se doute que Les personnes qui répondent au 115 doivent parfois avoir à dire ben, on ne peut pas vous aider quoi, enfin, tout de suite.
Alors, c'est très. C'est, j'ai envie de dire, ils disent plus souvent non que oui, hein, les écoutants du 115. Oui. Ils ont plus souvent, malheureusement, à transmettre aux personnes le fait qu'il n'y aura pas de solution pour ce soir. On fait rappeler, si jamais. On a aussi des personnes qui ne se présentent pas sur les lieux d'hébergement pour que, surtout, quand on clôt le 115, il n'y ait pas des places qui soient restées vacantes avec des personnes en demande d'hébergement qui se retrouvaient sans solution. Maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'en effet, au regard de l'ensemble des personnes qui sont dehors, on n'a absolument pas les moyens de pouvoir proposer à chaque personne tel qu'on est censé pouvoir le faire. Juste vous dire ça, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Voilà le cadre dans lequel on est censé intervenir. Donc autant vous dire qu'on est loin aujourd'hui de cette mise en œuvre-là. Pour vous donner un petit à titre d'exemple, la semaine dernière, on a eu le mardi, on a eu 80 personnes qui se sont vues notifier une impossibilité de prise en charge.
Et alors, comment vous donnez les priorités, parce que...
Alors, il y a des critères légaux, hein, on n'invente rien. La seule façon de pouvoir faire ce travail et de pouvoir continuer à le faire dans le temps, c'est d'essayer vraiment d'assurer un traitement très équitable des demandes. C'est-à-dire que c'est la seule façon de pouvoir gérer ça. Les critères légaux, ça va être quoi ? Ça va être les problématiques de santé, les problématiques de handicap. Le très jeune âge, c'est sûr que quand on a un appel d'un jeune qui a 18 ans, qui vient d'être mis à la porte de chez ses parents, l'idée pour nous, c'est très vite le faire rentrer sur un dispositif, que très vite un travailleur social puisse le rencontrer, que moins il passe par la rue, moins la situation va se dégrader. On va avoir aussi les personnes à partir d'un certain âge. Alors après, c'est toujours très difficile. On n'a pas un âge critique. Après, ça dépend des parcours des personnes. On peut être très fatigué à des âges qui, si on a eu une vie très insérée, ne sera pas du tout le même. Après, on a des critères tels que le fait d'être enceinte, le fait d'avoir un enfant de moins de 3 ans, le fait d'être victime de violences conjugales. On a des situations comme ça qui vont pour nous être des critères de vulnérabilité.
Le 115, c'est un numéro que peuvent appeler aussi les femmes qui souhaitent quitter leur domicile pour des raisons de violence.
Oui.
Oui.
Après, ça, c'est vraiment un dispositif très particulier qui se traite vraiment un peu de façon un peu différenciée sur le service, puisqu'on est signataire du protocole contre les violences faites aux femmes. À ce titre-là, le 115 a un financement particulier pour mettre à l'abri les personnes victimes de violences conjugales. C'est la seule situation où on pourra créer une place à la demande, mais sur une très très courte période. Et il y a une évaluation juste derrière, évidemment, par le service social, et ensuite un déploiement de solutions pour s'insérer très très vite, trouver vite, très très vite une solution pour sortir de l'urgence. Mais c'est des situations très exceptionnelles.
Ouais. Et les personnes qui sont reçues au 115 bénéficient d'un accompagnement social systématiquement
Alors, la règle, c'est tout appel 115. Alors, comme vous l'avez compris, ne donne pas lieu à une orientation vers un hébergement, malheureusement, mais donne lieu, en tout cas, quoi qu'il arrive, à une orientation vers un service social. Si la personne relève d'une demande d'asile, elle va être orientée vers la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile gérée par Coalia. Si, dans toutes les autres situations, la personne va être orientée au pôle social et médical d'entraide et solidarité, de façon à ce qu'elle puisse être reçue dans un délai très très court. Les rendez-vous sont donnés à 24, 48 heures dans certaines situations, mais dans quasi-totalité des cas, le lendemain, il y a un rendez-vous avec un travailleur social dont la mission sera de faire une évaluation sociale et de pouvoir voir un petit peu vers travailler un projet avec la personne pour s'insérer durablement.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'hébergement, mais on a un début de travail avec la personne sur la santé, sur trouver un projet.
Non, c'est l'accompagnement social sur le service d'accueil et d'orientation, il est quand même clairement axé sur l'accès à l'hébergement et au logement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'axe de travail du service d'accueil et d'orientation, c'est vraiment celui-là. Maintenant, on va pouvoir évidemment aborder tout un tas d'autres problématiques, sachant que pour accéder à un hébergement ou un logement, il va falloir lever les freins à cet accès-là. Mmh. On a des personnes pour lesquelles l'accès à un logement tout de suite, ça va pas être possible, ne serait-ce que absence de ressources. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se poser qui feront que l'accès pourra pas être direct. Donc, évidemment que la personne est prise dans sa globalité. Pour autant, on est vraiment centré sur cette, sur ce travail-là vers l'hébergement et le logement. D'autant que ces rendez-vous-là nous permettent de pouvoir faire remonter au 115. Les travailleurs sociaux du SAO ne font pas partie du 115, mais ils ont, comme l'ensemble des partenaires qui gravitent un peu autour du 115, un devoir, d'une certaine façon, d'alerte. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du lien qu'il y avait eu entre l'hospitalisation et le 115. Très clairement, le 115 invite tous les services, accueil de jour, centre d'hébergement d'urgence, les hôpitaux, le service d'accueil et d'orientation, qui est le service social dédié aux personnes sans domicile à Tours. Donc, de fait, on accueille énormément de personnes qui vont faire le 115. Mais il y a vraiment cette nécessité de pouvoir faire, de donner la connaissance, évidemment avec l'accord de la personne qu'on rencontre, hein, mais de donner ces critères de vulnérabilité pour que le 115 puisse, s'il y a des choix à faire, parce qu'il y en aura forcément, les faire en étant éclairé. Voilà. De façon à ce que le 115 recueille les critères de vulnérabilité pour que s'il y a un choix à faire, il puisse se faire, en tout cas en ayant toutes les données sous la main. Après, c'est pas parce qu'un travailleur social du SAO va dire j'ai reçu telle personne, il faudrait vraiment l'héberger, etc. J'ai envie de vous dire, il faudrait vraiment héberger tout le monde. Voilà. C'est... Donc après, c'est le 115 qui fait des choix parce qu'il n'a pas le choix que de faire des choix. Mais c'est vraiment compliqué de ne pas... En tout cas, on ne pourrait pas faire ce travail-là si on n'avait pas l'expertise d'un certain nombre d'acteurs, y compris la PADA, etc.
Et ce la besoin,
la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, pardon.
Et le besoin non satisfait justement d'hébergement, ça remonte ça dans le logiciel dont tu parlais tout à l'heure, ça remonte vers les autorités,
oui.
Enfin, l'administration
bien sûr.
Bien connaissance jour par jour comment ça marche.
Jour après jour. En effet, on a un devoir, on a des missions de veille sociale. Et ça fait partie de cela. C'est-à-dire que charge à nous de renseigner ce logiciel justement pour que l'État ait une lisibilité sur les besoins et sur le nombre de personnes qui se retrouvent sans solution chaque jour. Voilà. Donc avant, c'est nous qui faisions un travail et qui envoyions à la délégation départementale de la cohésion sociale, donc aux représentants de l'État sur le département, ces chiffres-là. Aujourd'hui, grâce à ce logiciel, ils peuvent les récupérer tout seuls. Voilà. C'est ce qui va faire la différence.
Moi, je voudrais revenir sur les écoutants. Pardon. Tu disais qu'il y avait une permanence de 22h à 7h.
Voilà, tout à fait. Tous les jours, jours fériés compris, évidemment, il y a deux écoutants qui répondent au 115 pour pouvoir écouter les personnes, les informer, parce qu'évidemment, le 115 est aussi très en lien avec les SAMU sociaux de Tours, sachant que sur le territoire, on a deux associations qui portent du SAMU social. On va avoir Entraide des solidarités avec la Maraude, qui fait partie du pôle social et médical, et le SAMU social de la Croix-Rouge, qui se répartissent les maraudes en fonction des jours de la semaine. Voilà, c'est un petit peu atypique, mais voilà comment ça s'organise. Et c'est sûr que le 115 va avoir un lieu d'alerte, c'est-à-dire que les personnes, les citoyens qui voient des personnes à la rue, s'ils le souhaitent, peuvent alerter le 115. C'est sûr que c'est mieux s'ils en parlent avec la personne qui est dehors, mais voilà. En gros, après, le 115 va prévenir le SAMU social qui va pouvoir aller à la rencontre des personnes qui sont dehors, faire le 115 ensemble, pourquoi pas du dépannage alimentaire, ça dépend un petit peu de la situation et puis aussi du SAMU social.
Ok. Je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, là, moi, je pense aux écoutants 115, je pense qu'ils ont un rude boulot.
C'est pas simple. Ouais. Après, les écoutants 115, ils ont aussi en tête que les personnes qu'ils ont au téléphone, on parle d'un toit, on parle d'un droit qui est inscrit, c'est-à-dire que tout le monde a droit à un hébergement, quelle que soit sa situation administrative, quelle que soit sa situation sociale, peu importe, tout le monde a le droit, devrait avoir accès à un hébergement. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir mettre en œuvre ça, mais les écoutants savent que les personnes qui sont en face d'elles, si quelquefois elles peuvent être agressives ou culpabilisantes, on sait aussi que c'est parce qu'on a conscience de ce qu'on est en train d'annoncer aux gens. Ce soir, vous dormez dehors. Voilà. C'est pas simple.
Bon, sur ces mots, on va envoyer une musique.
De quoi ?
14-427 aux ailes de Cachemire, sa frange grille, ma dernière cigarette. Je vous attends sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants. J'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, on griffe d'or et de diamant. Je sais que la scie est prête. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour acheter du Néandertal. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, au long regard phosphorescent, je bouge mon nez, remonte mes chaussettes. Je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les mouches s'apprêtent autour des tables du festin. Je vous attends. Et j'attends que se dressent vos prochains charniers. J'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos macabres seront bien faisant des. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, au croc venimeux et gluant, je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. Du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, aux griffes d'or et de diamants, je sais que la cigue est prête. Je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, la tombe, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache vos cancers, je sais. Un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront Père de Terre. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, au cerveau de jaspe et d'argent, il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Le goût du grand art et sur mon compteur électrique j'ai le portrait du prince Ringard. Je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour.
Nous reprenons notre émission sur l'hébergement d'urgence et tout d'abord nous allons poser quelques questions à Alain. Rebonjour Alain.
Rebonjour.
Il vient d'où cet accent ?
Du sud, mais du sud-sud, pas du midi moins le quart.
D'accord, c'est quoi le sud-sud ?
Les Hautes-Pyrénées.
D'accord. Vous êtes actuellement hébergé au Sherpa ?
Oui.
CHRS. Depuis combien de temps, Alain ?
Eh bien, ça va faire 3 semaines.
3 semaines. Comment ça se passe ?
Très bien.
Très bien ?
Très bien.
Il y a
heureusement qu'ils étaient là, quoi.
Oui, c'est-à-dire Il y a 3 semaines, vous êtes arrivé, ils vous ont accueilli.
Ah oui. Très bien. Un peu comme Jean-Philippe, c'est pareil.
D'accord.
Que ce soit les animateurs, que ce soit tout le monde, quoi. Et même les résidents aussi, qui nous ont bien accueillis.
D'accord. Il y a un esprit de famille au Sherpa ?
Oui, exactement.
Donc, il y a l'accueil, il y a un lit maintenant ?
Oui.
Au niveau de la santé, vous avez aussi...
Oui, j'ai pas mal de problèmes aussi au niveau de la santé, quoi.
D'accord. Là, c'est 3 semaines et après, ça se prolonge. Comment ça va se passer ?
Je ne sais pas encore. Là, j'ai été voir mon assistante sociale qui était sur Mont-Louis.
D'accord.
Et avec Monsieur Malard, qui est donc au Sherpa, ils sont mis d'accord et je dois avoir normalement une commission pour avoir un logement le demain, le 3.
Bon, c'est tout proche.
C'est demain. Mais à savoir ce qui va se passer, ça, Dieu seul le sait.
Commencer une journée au Sherpa ?
C'est très bien.
C'est-à-dire ?
Le matin, bon réveil. Le déjeuner, bon réveil. Entre amis, très bon. Et la journée se passe très bien.
C'est important, les amis, Alain ?
Oui, très important.
Avant d'être au Sherpa, vous étiez où, Alain ?
J'étais sur Mont-Louis, et avant de Mont-Louis, j'étais sur Toulouse.
D'accord. Et à Mont-Louis, vous étiez hébergé ?
Non.
Non ?
Non, non. J'avais un petit logement.
D'accord.
Voilà.
Donc vous pouviez plus garder ce petit logement ?
Non.
Donc ce qui fait que vous avez été sur Tours.
Mais je téléphone au 115, et le 115 m'a envoyé donc au Sherpa.
D'accord.
Elle est comment votre chambre ? Vous avez une chambre ? C'est comment
Je suis justement avec Jean-Philippe.
Ah,
voilà, c'est pour ça que. Voilà. On n'est pas mariés, mais non, on est ensemble.
Okay. Lolita, vous êtes éducatrice spécialisée ?
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous parler de votre mission ? Auprès des personnes que vous accueillez ?
Alors, les missions, elles sont très très larges. Effectivement, on est là donc, pour l'accueil, que ce soit au 115 ou des personnes qui sont accueillies en insertion. Donc, ça, c'est bien un autre dispositif. On est là donc pour assurer l'accompagnement social des personnes. Donc, quand je dis accompagnement social, là encore, c'est très large. Hein. Ça peut être donc de l'accompagnement physique vers les dispositifs de droits sociaux, pour des rendez-vous médicaux, pour des démarches administratives auprès de la préfecture, par exemple. Voilà. Aussi dans la gestion du quotidien et des animations. Donc, le quotidien, ça comprend donc les repas midi et soir, petit déjeuner aussi, mais en lien avec le veilleur, donc. Et puis des animations, donc soit qui ont lieu toutes les semaines. Par exemple, on a un projet de jardin participatif, donc auquel on se rend toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et puis après, des sorties plus ponctuelles de visites, cinéma, voilà. Donc en lien avec l'animatrice qui est sur le Sherpa aussi. Voilà.
Quand une personne vous est orientée vers le 115, comment ça se passe, le premier accueil ?
Alors en fait, les personnes nous sont orientées le lundi soir par le 115. Il faut savoir que les places au 115 au Sherpa sont d'une semaine, ou après c'est des contrats au mois, mais on a 6 places d'une semaine. Dans ce cas-là, on accueille la personne le lundi soir. On la laisse se poser, de poser ses affaires, etc. On lui fait visiter la structure. Donc nous, on a la restauration collective sur le Sherpa. On lui montre donc quelle sera sa chambre. Dans la chambre, il y a une salle de bain, enfin il y a une douche. On lui présente la personne avec qui elle va être, parce que les chambres sont doubles, donc comme l'expliquaient Alain et Jean-Philippe tout à l'heure. Si le repas n'est pas déjà passé, on lui propose donc de venir dîner avec nous. On lui remet aussi un règlement de fonctionnement qu'on lui dit de prendre le temps de lire, voilà, et puis de signer. Et donc dans les 24 heures, normalement, elle est reçue par un des travailleurs sociaux pour faire un petit peu... un point sur sa situation. Souvent, ça, c'est le lendemain. Enfin, vraiment, le premier jour, on laisse les gens se reposer et se poser, quoi, parce que c'est assez important pour eux. Donc, voilà.
Se poser et se reposer, on sent que c'est vraiment, quand on arrive de la rue, c'est important de retrouver un peu de repères.
on voit selon le témoignage de Alain et Philippe qu'il y a ce côté repère, famille ou sherpa.
Oui, en effet, je pense que c'est un côté plutôt rassurant. Le fait en plus qu'ils soient hébergés à la semaine, c'est vrai qu'on peut créer un lien un petit peu plus facile que qu'une personne qui va juste être là pour une nuit. On a aussi des gens qui sont en insertion ou en contrat, donc qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, et qui connaissent le dispositif, qui sont aussi là pour un peu expliquer comment ça se passe. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Mais oui, je pense qu'il y a un côté assez familial. Après, ça dépend de la dynamique du groupe aussi. Mais je trouve qu'actuellement, la dynamique est plutôt bonne et les gens ont tendance à s'entraider. Enfin, c'est plutôt intéressant.
Vous avez des résidents qui se connaissent entre eux à l'arrivée ou qui se retrouvent ou...
Bah oui, il y a des résidents qui se connaissent. Après, il y en a qui créent des liens aussi rapidement au Sherpa. Mais il y a des gens qui étaient dans des centres de nuit, par exemple, avant, ensemble aussi. Donc, ils se sont croisés sur d'autres dispositifs d'urgence. Ça arrive assez régulièrement. Ouais.
Vous avez combien de places au Sherpa sur l'hébergement d'urgence ?
Sur l'urgence, on a 12 places, 6 en semaine et 6 en contrat.
D'accord. À la fin de la semaine, s'il n'y a pas de solution ?
Alors nous, on n'est pas décisionnaire des solutions. C'est-à-dire que la personne reste donc une semaine jusqu'au lundi matin 10h. À 10h, on demande aux personnes de quitter les chambres puisqu'il y a le ménage qui est fait dans les chambres. On leur propose de mettre leurs affaires en bagagerie si elles le souhaitent. On leur propose également de déjeuner le midi avec nous si elles le souhaitent. Et ensuite, on n'est pas décisionnaire. La personne, à partir de 15h, doit faire le 115. Soit elle est réorientée chez nous, soit elle ne l'est pas. Mais voilà.
Il faut savoir pour le 115 que j'ai envie de vous dire, les places au Sherpa, elles sont chères. Oui. Plus sans soi. C'est le seul dispositif d'hébergement pour hommes seuls qui fasse de l'accueil continu en journée. C'est-à-dire que hormis les 6 places du Sherpa qui sont remises à la disposition du 115 tous les lundis, les autres places d'hébergement d'urgence pour hommes seuls sont des places où le lendemain matin, les personnes sortent. Donc forcément, j'ai envie de vous dire, quand on réfléchit avec le 115, qui on va orienter sur le Sherpa, il y a vraiment un enjeu très important. C'est-à-dire que qui est fatigué en ce moment dehors, qui a des problématiques de santé, qui est dans une bonne dynamique, qui est prêt à rentrer quelque part. Mais franchement, il faudrait que la personne va rentrer en logement, il faut qu'elle se pose parce qu'il y a des démarches à faire. Et concrètement, quand on est à la rue, c'est compliqué de mener tout de front. Donc c'est à qui on va permettre d'avoir ce lieu d'hébergement très privilégié. Très clairement, par rapport aux autres lieux d'hébergement. On parlait de chambres à deux personnes, c'est le seul dispositif pour hommes seuls qui est des chambres à deux. C'est plutôt 3 ou 4 ou 20 l'hiver. Enfin, voilà. Si vous voulez, très clairement, il y a des vraies discussions autour de ces 6 places-là tous les lundis au niveau du 115.
Et je trouve qu'actuellement, on observe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé qu'on accueille sur le Sherpa aujourd'hui, parce qu'effectivement, le fait de pouvoir être accueilli toute la semaine, que la structure soit ouverte toute la journée, qu'elle propose effectivement les repas, etc., c'est plutôt confort, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mieux que dans d'autres endroits. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes actuellement qui ont des problématiques de santé assez importantes.
Merci, c'est un peu compliqué de vous arrêter.
Pardon.
Le sujet, je n'ai pas envie d'arrêter. On a une pause musicale qui est prévue maintenant avec Dolly. Je ne veux pas rester sage.
Je ne veux pas rester seule.
Nous reprenons sur l'hébergement d'urgence et plus précisément avec Siaka, que je resalue. Siaka, vous êtes actuellement hébergée au Sherpa.
Oui.
Depuis combien de temps?
Ça fait un an que je suis là.
Un an. Donc vous faites partie des chanceux?
Oui, on peut dire ça.
Bon. On peut dire ça, ouais. Est-ce que vous voulez nous présenter votre parcours, Siaka? Ça vous fait mal aux oreilles, le casque?
Ça fait un an que je suis au Sherpa, donc moi je ne devais pas être là-bas pendant tout ce temps-là, c'est juste un problème administratif.
Vous arrivez d'où, Siaka?
J'arrive du Sénégal.
D'accord. Donc actuellement vous êtes confronté à un problème de papier?
Oui, c'est ça.
Depuis, donc vous êtes en attente de régularisation?
Oui.
Alors, comment ça se passe une journée au Sherpa?
Ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec tout le monde, que ce soit les résidents, les salariés, tout le monde. Donc,
Oui, vous travaillez sur un projet aussi d'insertion?
Pour le moment, je ne peux pas travailler dans un projet d'insertion du moment que je ne suis pas encore régularisé. Donc voilà, j'attends juste ce problème-là. Donc sinon, voilà, on est là. On fait des activités, que ce soit des sorties, des visites ou bien des jardins. Donc voilà, comme tout le monde.
Quel type d'activité vous faites?
Que ce soit partir dans le jardin ou faire des sorties, visiter des châteaux avec tous les résidents. Mm-hmm. Donc ça, c'est des...
C'est agréable. Alors oui. Là, on a Alain et Jean-Philippe qui sont là, qui sont arrivés de temps au Sherpa. Vous, quand vous voyez arriver Alain et Philippe, vous allez vers eux, vous les aidez, comment ça se passe?
Oui, depuis qu'ils sont arrivés, de toute façon, moi je suis tout le temps avec eux, donc c'est des amis.
Oui, j'allais rajouter en plus qu'ils sont très chaleureux et c'est touchant, c'est l'entraide qu'il y a entre résidents, ne serait-ce que pour apprendre la langue. C'est un exemple, quand quelqu'un a des lacunes sur certains domaines, les autres l'aident sur ce sujet et vice-versa. Donc il y a vraiment une interaction entre chacun d'entre nous et c'est chouette, quoi. Voilà, pardon.
Merci Jean-Philippe.
Je voulais rajouter un truc, c'est par rapport aux salariés du Sherpa. Franchement, moi, depuis que je suis arrivé, je suis bien accueilli, je m'entends avec tout le monde, et surtout avec le directeur Thomas Tremblay. Franchement, je n'arrête pas de la remercier tout le temps, tout ce qu'il a fait pour moi, donc c'est touchant.
C'est touchant. Le jardin participatif, c'est quoi cette activité?
Bon, les jardins, c'est pour les résidents du Sherpa et de la BARC aussi. Donc tous les jeudis, on se réunit là-bas pour faire des choses ensemble.
Il est sur place? Il est au Sherpa, le jardin?
Non, il est à la Riche.
D'accord. Et les légumes, après, c'est pour la restauration?
Oui, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de voir avec Amandine. Donc celle qui va voir ça, parce que après voir un jour si on peut faire revenir tout le monde ensemble entre la barque et le Sherpa faire un repas ensemble. Vous l'êtes tous.
Avec la barque, c'est ça ?
Oui, donc petite précision. Donc oui, l'association La Barque, on est en partenariat avec eux, donc sur ce jardin participatif en fait, voilà.
D'accord.
Et donc c'est bien un échange entre les résidents du Sherpa et les résidents, enfin les bénéficiaires de La Barque.
D'accord. Qu'on a reçu la dernière fois aussi.
Ok, donc merci à tous. On va peut-être conclure le sujet parce que je vois l'heure qui tourne là. Donc, en résumé, un numéro à retenir, le 115, c'est gratuit. Ça marche à partir de 15h. Voilà, c'est un accueil téléphonique des personnes qui tentent de trouver des solutions dans l'urgence tous les jours, qui travaillent avec tous les organismes du département qui disposent d'une place et qui déclarent les disponibilités. C'est un besoin qui est bien, bien supérieur aux moyens qui sont alloués. C'est sûr, oui. Des assos qui assurent un suivi local, médical, et qui aident au quotidien. Merci à tous. Merci Siaka, merci Alain, merci Jean-Philippe, Lolita, merci Floriane d'être venu avec nous. On a une page d'informations un peu générale du monde social qu'on peut délivrer aussi. Donc concernant l'hébergement d'insertion cette fois. L'État avait annoncé une baisse de 20 millions d'euros au plan national pour l'hébergement d'insertion. Elle va se décliner au cours des 3 prochaines années. Dans le même temps, il y aura plus de places d'hébergement d'urgence, peut-être 50 places en Indre-et-Loire supplémentaires, mais alors il y aura moins de moyens d'accompagnement. Et c'est en fait le court terme et la mise à l'abri qui sont privilégiés un peu au détriment de l'insertion. Une information qui concerne l'entraide. Donc le pôle social et médical qui se trouvait place des Halles.
Deux places Jean Meunier, oui.
Deux places Jean Meunier, voilà, déménage. À déménager. Donc il se trouve maintenant 55 rue Marcel Tribut.
Exactement, à la place de l'ancien centre de création contemporaine de Tours.
Voilà, donc vous y retrouverez là l'accueil social. Et je ne vais pas le dire.
L'inauguration a lieu mercredi à 16h30. Et voilà, toutes les personnes qui ont envie de venir sont évidemment les bienvenues. Voilà.
Sinon, concernant les migrants, il y a un accord qui se dessine au plan européen pour un accueil plus concerté entre les membres de l'Union européenne. Comment la France s'impliquera dans ce nouveau dispositif d'accueil qui semble-t-il reposera sur le volontariat des États membres ? Point d'interrogation. Ouais. Concernant la formation aussi, l'État annonce la mobilisation de crédits pour la formation.